Écoutez le monde changer.
Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans les carnets d'été jusqu'à 14h. Je vous propose de faire un bout de chemin ensemble en entendant à nouveau certains des grands reportages ou rencontres qui nous ont marqué toute la saison dernière. Et écouter le monde changer, regarder vers l'avenir, c'est aussi ne pas oublier l'histoire, notamment ses heures sombres, notamment la Shoah. Alors fin janvier, au moment de la commémoration de la libération des camps, nous avions découvert des archives très spéciales conservées dans la petite ville allemande de Bad Arolsen, des archives collectées par les nazis eux-mêmes sur leurs victimes.
Vous voyez donc des classeurs, des piles de documents jaunis, des boîtes à fiches où vous trouvez 50 millions de fiches concernant 17,5 millions de personnes. Si on mettait les documents donc l'un derrière l'autre, vous auriez une distance de 27 km.
Donner des informations précieuses aux descendants des victimes, rendre à son fils la montre d'un père, les archives de Bad Arolsen participent au travail de mémoire. Se souvenir d'un être cher disparu, c'est aussi ce qu'on fait dans les carnets Yu Sundur et Angelique Kidjo quand leur ami Manu Dibango a succombé au coronavirus.
Nous pensons que depuis l'esclavage, il y a des musiques aussi qui sont parties et qui nous reviennent. Des fois, on sent que c'est une partie de nous. Et Manu a toujours incarné cela, que ce soit dans les styles de jazz et tout. C'était notre représentant, c'était le trait d'union, c'était une fierté aussi.
On a perdu quelque chose d'énorme en Afrique. Il disait toujours, toutes les musiques sont bonnes, il faut savoir les écouter, c'est tout. Ce caméléon et ce monument, ce baobab et ce géant avaient compris tout ça, ils mettaient tout dans sa musique.
Après cet hommage à un grand de la musique, c'est en forêt qu'on ira se ressourcer avec une magnifique balade dans la dernière forêt primaire d'Europe, celle de Białowieża en Pologne, une autre dans la forêt d'Aaret près de Bombay menacée par les promoteurs. Et puis on réentendra le grand botaniste Francis Allais qui prône la création d'une nouvelle forêt primaire en Europe de l'Ouest, ce qui impliquerait l'absence de toute activité humaine pendant 800 à 1000 ans.
Vous connaissez sûrement la forêt de pins des Landes dans le sud-ouest, eh bien c'est 1 million d'hectares. Alors nous sommes capables de planter 1 million d'hectares, mais nous ne serions pas capables de conserver 600 000 hectares. Moi je trouve que la qualité de l'être humain, elle est en jeu là.
Et après cette grande page teintée de chlorophylle, on retrouvera Joseph Chovanec pour terminer avec une petite page philosophico-autistique. Les derniers carnets d'été sont ouverts et on file à Bad Arolsen en Allemagne.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Le 27 janvier, c'était la journée internationale de commémoration de la Shoah. 75 ans avant, ce jour-là précisément, le 27 janvier, l'armée rouge libérait le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Commémorer, se souvenir, écouter les rares rescapés toujours parmi nous, ce sont autant de manières de dire plus jamais ça. Et dans les carnets, cet hiver, la veille de cette journée du souvenir, nous nous étions plongés dans les archives de la petite ville de Bad Arolsen, en plein cœur de l'Allemagne. C'est là que sont conservées une quantité incroyable d'informations collectées par les nazis eux-mêmes, des archives qui témoignent de la cruauté de leurs crimes, qui permettent aussi de découvrir 75 ans après de nouvelles histoires de destins ravagés ou celles de survivants miraculés. À Bad Arolsen, ce sont des historiens et des bénévoles qui entretiennent la mémoire. Alors que les derniers témoins disparaissent, les archives parlent. Ce reportage signé Hélène Kohl, j'avais très envie qu'on le réécoute ensemble.
Comme vous voyez, donc, c'est un dépôt où il y a des étagères et des armoires donc, à perte de vue. Donc, vous voyez donc, des classeurs, des piles de documents jaunis, des boîtes à fiches où vous trouvez 50 millions de fiches concernant 17,5 millions de personnes.
C'est un patrimoine unique, protégé par l'UNESCO, que nous fait découvrir Nathalie Letiers-Liebig en entrant dans cet ancien hangar industriel, le plus grand centre de documentation du monde sur les persécutions nazies.
Si on mettait les documents donc l'un derrière l'autre, vous auriez une distance de 27 km.
Le fonds a été rassemblé là, petit à petit, après 1945, par les Alliés qui occupaient le territoire allemand, dans les camps de concentration, mais aussi les prisons, les commissariats, les administrations ou les entreprises, les nazis avaient laissé des documents qui attestaient de leurs crimes.
De ce camp, nous n'avons pratiquement plus de documents. La seule chose qu'ils aient laissée, ce sont ces listes. Vous voyez, l'enregistrement du nombre de poux qui se trouvaient donc sur la tête des détenus. Ici, ce sont donc les matricules. Il était au bloc 3. Il faisait même le total. Ce sont les rares documents donc, qui nous permettent aujourd'hui donc, de prouver qu'un détenu a été bien dans ce camp.
Ces archives ont d'abord servi à la Croix-Rouge, qui s'occupe à l'époque de retrouver les personnes disparues pendant le conflit. Et dès 1948, Bad Harolsen devient le siège du service international de recherche. Aujourd'hui encore, chaque mois, il reçoit un millier de demandes venues du monde entier, des familles qui veulent en savoir plus sur un aïeul déporté. Dans le hangar, la soufflerie tourne en permanence. Il faut la température parfaite pour préserver au mieux ces documents, car ils sont bien plus que de simples feuilles de papier, insiste la directrice du centre, la française Floriane Azoulay.
Il faut savoir que pour des centaines de milliers de personnes, je ne peux pas vous donner vraiment de chiffres exacts, la trace qu'il y a dans ces documents, un nom, une signature, une date de naissance, est souvent la seule et la dernière trace qui existe. Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de sépulture. Donc nous sommes aussi, je dirais, les gardiens d'un mémorial de toutes ces personnes persécutées par les nazis.
Ces services se sont lancés il y a quelques années dans une tâche titanesque, tout numérisé, pour mettre tout en libre accès sur Internet. Une première vague de documents a été publiée l'an dernier.
Nous avons eu plus de 350 000 utilisateurs en l'espace de 6 à 8 mois. Donc il y a une véritable demande, il y a un véritable intérêt de personnes qui ne savaient même pas que cette institution existait, que ces archives existaient.
D'ici 5 ans, tous les noms, toutes les personnes dont il y a une trace dans les documents seront répertoriés et on pourra les retrouver sur le web. 260 personnes travaillent ici, une équipe internationale d'archivistes enquêteurs. Car dans le grand hangar, il y a aussi plus de 2500 objets, des montres, des bijoux par exemple, que les nazis avaient pris aux déportés. Nathalie Le Tiers-Lebig.
Ces objets qui sont conservés dans nos archives ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux familles. Nous voulons absolument les restituer donc, aux derniers survivants, s'il y en a encore, et à leurs descendants directs. Nous sommes en relation donc, avec des bureaux d'état civil, des services d'archives, des mémoriaux, mais aussi nous avons beaucoup de volontaires qui nous aident dans les pays à retrouver des familles ou des survivants.
Une démarche à valeur universelle, selon Floriane Azoulay, car tous ces objets contribuent à faire reculer l'ignorance.
En racontant des histoires auxquelles presque n'importe qui peut s'identifier, on a un accès par le cœur et par l'esprit, par l'intellect, à ce grand moment de l'histoire, pour contrecarrer le révisionnisme.
Déjà 370 objets ont ainsi été rendus au cours des trois dernières années. Bad Harolsen, Hélène Kohl, Europe 1.
Incroyable plongée dans ce hangar des archives de Bad Harolsen en Allemagne. Et l'enquête ne s'était pas arrêtée là. Après cette visite et grâce au personnel des archives, Hélène Kohl avait pu, elle aussi, retrouver la trace de certains de ses héritiers et entrer en contact avec eux. Écoutez.
Oui, par exemple, Jacques Piguilhem, un Breton qui vit près de Rennes et qui a eu la surprise un jour de recevoir une lettre de Bad Harolsen, lui expliquant qu'ils avaient identifié un objet appartenant à son père, un résistant espagnol déporté en 44.
Bah, il y a la montre à mon père. Bon, pas une grande valeur, mais je pense une valeur sentimentale importante. Et puis la première chose que j'ai fait, c'est que comme c'est une montre mécanique, je l'ai remontée. Et elle fonctionnait.
Voilà, on entend son émotion, hein, d'autant plus que son père, à son retour du camp, n'a jamais plus évoqué cette montre et plus précisément cette période de sa vie.
Ah non, je ne savais pas. Mon père ne parlait pas beaucoup de ça. C'était tellement horrible. Il y avait de la pudeur. Il nous a dit qu'il avait souffert, ça c'est sûr. Puis on a reçu quelques documents aussi de la part d'Harolsen. Alors là, ça doit être l'arrivée au camp de concentration 10-6-44. Son numéro d'immatriculation 31336. Hein, c'est incroyable quand même.
Voilà cet homme que vous avez joint en Bretagne, Hélène. Autre histoire incroyable dénichée dans les archives, celle de ce convoi d'enfants juifs, tous âgés de moins de 6 ans et qui ont échappé aux chambres à gaz.
Oui, on a du mal à y croire, mais c'est le destin entre autres de Gershon Willinger. Alors ça aussi, c'est un entretien fait par Skype, puisque cet homme de 77 ans vit aujourd'hui au Canada.
Le 13 septembre 1944, le groupe de 50 enfants dont je faisais partie a été envoyé vers Auschwitz. Nous sommes restés quelques mois à Bergen-Belsen. C'était exactement au moment où Anne Frank et sa sœur Margot s'y trouvaient aussi. Et j'ai un tout petit peu de souvenir de la fin, quand on a été libérés. Je me souviens des camions militaires, et que les enfants y étaient déposés pour être ramenés aux Pays-Bas.
Alors, il a juste 2 ans à ce moment-là, et jusqu'en 2018, figurez-vous, quand il est contacté par l'équipe de Bader Olson, Gershon ne sait quasiment rien de son histoire personnelle, et surtout rien de ses origines et de sa famille, qui a été exterminée par les nazis. Et donc, il y a 1 an et demi, à l'invitation des archives, il va faire le voyage jusqu'à cette petite ville en plein centre de l'Allemagne.
Et ils m'ont donné, je ne sais pas combien de documents, c'était un gros, gros dossier. Et ils étaient parfaitement préparés, ils m'ont tout expliqué, raconté pendant 3-4 heures. Les informations étaient tellement précises sur ma famille, mes origines, qui avait divorcé, qui vivait où, c'était bouleversant. C'est un héritage que je n'aurais jamais pu avoir s'il ne l'avait pas déniché. Toutes les histoires familiales que transmettent normalement les parents, je les ai eues par Bader Olson.
C'est extraordinaire. Quelle émotion, hein, juste de l'entendre là. Hélène, comment se fait-il qu'on ne connaisse pas davantage ces archives ?
Sans doute parce que jusqu'à présent, il était un peu compliqué de les contacter, puis même d'y aller, hein, en plein cœur de l'Allemagne, c'est vraiment une toute petite ville. Disons que c'était vraiment une vraie démarche à faire, avec une demande officielle, des courriers, etc. Mais avec la mise en ligne des documents, il y a donc un peu moins d'un an, ce travail des archives sort de l'ombre, et en 3 clics, hein, vraiment, vous pouvez vérifier si un nom apparaît, accéder aux documents. C'est un peu comme ouvrir un livre de photos. Pour la directrice, la numérisation est une étape vraiment très importante, surtout qu'elle intervient à un moment charnière.
Au moment où vraiment où les derniers témoins de la Shoah disparaissent, notre rôle est de lutter contre l'oubli, contre le déni, mais aussi contre le révisionnisme. Parce que très bientôt, il n'y aura plus de témoins pour parler de ces événements, et il faudra que nous arrivions à faire en sorte que les documents parlent à leur place.
Voilà le rôle essentiel des archives dans la mémoire collective et la mémoire individuelle de certaines familles. Pourquoi, Hélène, est-ce une Française qui dirige Bader Olson ?
En fait, ce service international de recherche, hein, c'est le nom officiel de l'organisme qui gère les archives, a été créé par la Croix-Rouge après la guerre, et il est administré par une commission composée de représentants de 11 pays. Alors, avant Floriane Azoulay, c'était une historienne américaine qui était directrice. Azoulay, elle est sociologue de formation, mais elle est surtout spécialiste des droits de l'homme et des discriminations. En France, elle a fait notamment partie de la mission qui a travaillé sur la restitution des biens juifs spoliés pendant la guerre. Donc elle est tout à fait légitime à ce poste. Elle est arrivée en 2016 pour un mandat de 5 ans qui va peut-être être reconduit une fois.
Voilà le fonds d'archives sur les victimes des persécutions nazies, accessible à tous sur Internet grâce à un énorme travail de numérisation. Vous tapez Harolson, comme ça se prononce, et archives au pluriel, et vous trouvez ce site harolson-archive.org. On change complètement d'ambiance dans quelques instants, quoique il est encore question du souvenir d'un homme disparu au printemps, emporté par la Covid. Ses amis disaient de lui qu'il était un baobab sur lequel on pouvait compter. Hommage à Manu Dibango à suivre.
Europe 1, les carnets du monde.
Il fait partie des personnalités victimes du coronavirus au début de l'épidémie en mars. Les carnets d'été reviennent sur cet hommage rendu à un immense musicien, Manu Dibango.
Immense bonhomme, géant de la musique africaine au sens figuré, mais également physiquement. Hein. On se souvient de sa silhouette massive, de son rire aussi. Manu Dibango a été emporté par le virus à 86 ans. Il avait 60 ans de musique derrière lui. Papy Groove, comme l'appelaient certains, était un saxophoniste de légende, mais il avait aussi été producteur, découvreur de talent. En mars, j'avais appelé 2 autres grandes stars de la musique africaine qui avaient 1000 anecdotes et souvenirs à raconter. Pour eux, Manu Dibango, c'était un inspirateur, un grand frère, un ami. Premier témoignage, celui de Youssou N'Dour, qui nous avait répondu depuis Dakar, qui commençait à se confiner à l'époque.
J'ai découvert Manu Dibango, j'étais très jeune. Chaque week-end, je rentrais chez mon père. Je vivais avec ma grand-mère. Il n'y avait qu'une radio, à l'époque, la Radio Nationale. Et dimanche, quand je rentrais, il y avait une émission qui présentait un peu la musique moderne. Et j'entendais tout le temps le sax de Manu Dibango, Soul Makossa. Et vraiment, ce sont vraiment les premiers instants où j'ai aimé cette direction musicale qui incarnait un peu, pour moi, la musique moderne africaine. Et je me souviens. Je me souviens aussi que la première rencontre, c'était à Abidjan. Et il y avait une grande manifestation où il y avait beaucoup d'artistes à l'époque. Donc j'étais très jeune quand je suis venu et je me souviens tout le temps quand on m'a dit « Le grand voulait te voir ». Et c'était un moment très fort. Je me souviens avoir, quand je l'ai vu avec son sourire légendaire, c'était très émouvant. Je voyais un guide, un père de la musique. Et Mandy Dubango a toujours été pour nous notre représentant dans ce qu'on appelle la musique mondiale. Vous savez, on revendique toujours certaines musiques parce que nous pensons que depuis l'esclavage, il y a des musiques aussi qui sont parties et qui nous reviennent. Des fois, on sent que c'est une partie de nous. Et Manu a toujours incarné cela, que ce soit dans les styles de jazz et tout. C'était notre représentant, c'était le trait d'union. C'était lui qui incarnait vraiment cette intelligentsia musicale africaine moderne dans le concert des nations. Et c'était une fierté aussi.
Où vous situez son africanité dans sa musique ?
D'abord, rien que d'entendre le son de son sax avec quelque chose d'africain, le souffle avait beaucoup, beaucoup d'africanité. Ses compositions sont vraiment basées aussi sur le continent avec des tonalités vraiment qu'on sent qu'il parle pour nous. Ou rien que d'entendre rigoler, ça c'est la joie de vivre africaine qu'il incarne chaque fois qu'il est avec les gens et tout. Non, énormément, il symbolisait vraiment l'Afrique, mais l'Afrique moderne. On priait toujours, parce que chaque fois qu'on le voyait, on était impressionné par sa force de présence et de donner ce petit quelque chose à tout le monde en parlant, en rigolant, en faisant des émissions de radio, en jouant, en partageant énormément de choses. Il donnait un petit truc à tout le monde. En tout cas, il a joué sa partition ici, et je suis sûr qu'une partition ici, c'est une continuité aussi, là-haut.
Les souvenirs et l'hommage de Youssou N'Dour depuis le Sénégal. Et la belle partition de Manu Dibango, il y en a une autre qui s'y était pas mal promenée. C'est la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, qui a fêté ses 60 ans en chantant la Marseillaise ce 14 juillet sous la Tour Eiffel. En mars, on l'avait appelée chez elle et elle avait très envie de parler de son ami Manu.
Manu a été la personne la plus importante pour mon premier disque, Le Gozo. Et les gens ne se sont pas rendus compte de ça. Je l'ai invité pour que son saxophone soit comme une bénédiction et que ce soit un soutien pour moi. Il est venu. La touche qu'il a apportée aux chansons, c'est du Manu, quoi. C'est musical, c'est punchy, c'est dans l'esprit de l'album, alors qu'il n'a pas écouté tout l'album. Cette oreille musicale qu'il avait, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et le rôle aussi de transmission qu'il avait, c'est-à-dire parler aux jeunes, amener les jeunes pour bosser avec lui. Il a produit tellement de choses, c'est absolument hallucinant, quoi. Il a été directeur musical de la télévision ivoirienne. Il a travaillé avec plein de jeunes artistes du continent africain. Il n'y a pas un artiste aujourd'hui qui a 30, 40, 50 ans qui ne se rappelle pas de Manu. C'est pas possible, quoi. Il a travaillé avec Dick Rivers, avec Jean-Michel Jarre. Mais c'est un caméléon. C'est un caméléon, toutes les musiques, il arrive de son côté, avec le côté jazz, de l'improvisation, il arrive toujours. Tous les musiciens qui ont rencontré Manu sont partis avec un bout de Manu avec eux.
Il disait qu'il aimait bien se présenter comme un musicien d'origine camerounaise parce que ça lui donnait la liberté d'aimer aussi Rachmaninoff, Piaf, Gainsbourg, Count Basie, etc. C'est ce côté caméléon dont vous parlez.
Bah oui, mais parce que la musique, pour aimer Rachmaninoff, Bach, de passer de Bach au boléro de Ravel ou de faire n'importe quelle musique, si on n'a pas une culture profondément africaine, on ne le peut pas. Parce que c'est de là d'où viennent toutes ces musiques-là. Le boléro de Ravel, c'est écrit sur des mots d'Africains. Quand on écoute les sarabandes de Bach, c'est quoi ? C'est la danse des descendants d'esclaves du Panama. Et c'est un mélange des danses de l'Afrique noire et du Maghreb. C'est un mélange de tout. La musique est dans notre ADN parce que nous sommes tous des homo sapiens, nous venons tous d'Afrique.
Et Manu Bango, il était comme ça.
Ah ouais, mais lui, c'était avec son saxophone, des fois, il n'avait même pas envie de parler. Il commençait à jouer et il mettait tout le monde d'accord. Et ces 12 notes de musique portent toutes les émotions du monde. On peut les utiliser pour pleurer, pour chanter, pour danser. Et c'est ça qui nous lie. C'est cette musique qui nous parle. Et puis c'est tout.
Il vous appelait Anjo ?
Ah oui, je ne sais pas pourquoi, mais Anjo. Et j'ai dit, mais c'est quoi Anjo? Il dit, mais c'est la joie, tu es tout le temps gay. Donc, Ange et joie. J'ai mis un angélique et joie en même temps, donc c'est Anjo. Bon, d'accord, j'ai dit, d'accord, je prends.
On dit que c'est un grand baobab qui est tombé, là.
C'est un baobab, c'est un géant, c'est un monument, c'est un tout. On a perdu quelque chose d'énorme en Afrique, là. Parce qu'une personne de cette ouverture culturelle, et il n'a jamais, jamais dit « telle musique n'est pas bonne ». Il disait toujours « toutes les musiques sont bonnes ». Il faut savoir les écouter, c'est tout. Donc, ce caméléon et ce monument, ce baobab et ce géant avaient compris tout ça. Il mettait tout dans sa musique. Et moi, je disais toujours, son saxophone était l'extension de son souffle.
Angélique Idjo, est-ce que vous auriez envie de lui chanter une petite chanson aujourd'hui?
Ouais, mais sa chanson que moi j'aime
juste
bien, que je l'ai tellement bassiné la tête avec un projet qu'on avait envie de faire ensemble, c'est de chanter des chansons de Manu qui ont bercé mon enfance et d'autres grands compositeurs camerounais. On était en train de commencer à faire un répertoire par rapport à ça.
Alors voilà, vous en choisissez une petite là?
Une petite, Somaloba, il adorait cette chanson. C'est une chanson de prière quoi, pour la bénédiction, pour la vie, pour tout. Somaloba. Somalomba. Somalomba, obentela la bunyaye, Somalomba, ayo, Somalomba, Somalomba, obentela la bunyaye, Somalomba.
Et après cette douce prière chantée par Angélique Kidjo, on ne pouvait pas terminer cet hommage sans quelques notes de Saul Makossa, bien sûr, le tube de Manu Dibango.
Europe 1, les carnets du monde.
Dans les carnets du monde, les reporters d'Europe 1 nous permettent d'écouter le monde changer et de constater notamment les conséquences en cascade du réchauffement climatique.
Tout au long de l'année, c'est vrai, de nombreux grands reportages nous ont permis d'entendre l'impact concret des changements climatiques sur la biodiversité, sur les océans, d'entendre aussi les solutions pour faire face, par exemple avec les énergies vertes. Et ces carnets d'été sont l'occasion d'en réécouter certains qui nous ont marqués. Je vous propose aujourd'hui une belle balade en forêt, car cet hiver, on avait un invité de marque, l'un des plus grands botanistes qui soit, Francis Allais, qui nous avait rappelé d'emblée que sans les forêts, nous ne respirerions pas. Elles produisent le dioxygène de l'air et sont aussi, grâce à la photosynthèse, des puits biologiques à dioxyde de carbone. Avant d'échanger avec Francis Allais, on s'était enfoncé dans la dernière forêt primaire d'Europe tempérée. Białowieża se trouve à 200 km à l'est de Varsovie, à cheval sur la Pologne et la Biélorussie. Du côté polonais, 140 000 hectares sont protégés par l'UNESCO depuis 2014. Et à l'intérieur de cette aire protégée, une petite partie l'est encore plus depuis plus de 40 ans. C'est ce qu'on appelle la réserve intégrale, la forêt primaire de Białowieża. Il faut montrer patte blanche pour y entrer, ce qu'on avait pu faire grâce à notre correspondante Fanny Boucaud. Écoutez, c'est une belle expérience auditive.
Il faut traverser des champs et un bois avant d'arriver à la réserve intégrale. Quelques 5000 hectares de forêt primaire jamais influencés par l'homme. On y entre seulement accompagné par un guide. Ce sera João Ferro, né à Lisbonne. Il parle 8 langues et s'est installé à Białowieża il y a quelques années. Tombé amoureux de la forêt lors d'une visite il y a 10 ans, il est le premier étranger à avoir reçu le titre de guide officiel du parc national.
Białowieża, c'est un sanctuaire dans le sens que ici, la nature est préservée dans son potentiel maximum. Ça veut dire qu'il n'y a pas dérangement, influence humaine, ce qui fait qu'ici, les règles de vie sont respectées au contraire de la majorité des paysages du monde.
Un sanctuaire matérialisé par une immense porte en bois. Dans une infime partie de cet espace ultra protégé, il existe 3 sentiers de 3, 4 et 6 heures de marche. Interdiction d'en sortir, de cueillir ou ramasser quoi que ce soit, ni de laisser des traces de son passage. Devant moi, une forêt, de très grands arbres, un léger sous-bois, tout y est très vert, rien d'exceptionnel, en apparence seulement.
Une des choses qu'on peut observer ici, qui est une caractéristique typique d'une forêt primaire, c'est la dimension des arbres, par exemple. De toutes les 26 espèces d'arbres qu'il y en a, 25 ont l'individu plus grand de l'espèce, en Europe, même un petit peu plus que l'Europe. Cet endroit de Białowieża est la forêt plus haute d'Europe. Et l'arbre plus grand qu'on peut trouver ici à Białowieża a quelque chose comme 65 mètres de taille.
Et c'est un quoi?
C'est un épicéa.
Ici, on compte 200 espèces d'oiseaux, 2000 plantes, 5000 types de champignons et plus de 20 000 espèces d'insectes, ainsi que des mammifères, loups, lynx, élans, castors, et bien sûr, les bisons d'Europe, symbole du parc et principale attraction touristique. Ils ont été réintroduits ici en totale liberté en 1954. Ils seraient plus de 500 du côté polonais. C'est la dernière grande population de bisons sauvages en Europe. Même si l'animal pèse plus de 600 kg, il n'est pas plus large qu'une vache et se faufile entre les arbres. C'est une vraie partie de cache-cache entre lui et les visiteurs.
En été, je commence ma journée à 2h du matin. C'est la fenêtre de possibilité qu'on a pour voir la vie sauvage. L'été, c'est le plus difficile parce que les femelles ont les bébés, donc ils sont très méfiants et très loin de nous. En hiver, on pourrait trouver des grands groupes concentrés autour d'un alimentateur. Si l'hiver est vraiment dur, j'avais l'occasion cette année de porter des personnes à une tour d'observation proche d'un alimentateur. Il y en a presque une centaine de bisons dans le même endroit.
En cherchant ces fameux bisons, on peut également se faire un peu peur.
Je me rappelle une fois de guider un groupe français aussi, d'administrateurs d'une grande banque commerciale, et qui ont été dans un sentier très spécifique et très dense. Et qui, dans un certain moment seulement, à quelques mètres de distance, à 2 ou 3 mètres de distance, deux mâles ont passé jusqu'en face de nous. Il était très rigolo de voir le visage de des administrateurs de cette banque, parce qu'ils étaient légèrement décolorés.
Pas de bison ce jour-là dans la réserve intégrale, mais une quantité astronomique d'insectes. Ils pullulent surtout dans le bois mort qui reste au sol. C'est la règle ici, pas le droit d'y toucher, c'est la mécanique de la nature, comme l'a dit Juanjo. Pourtant, il y a 3 ans, les dégâts occasionnés sur les arbres par un insecte nécrophage, un coléoptère, avaient servi de prétexte au gouvernement polonais pour ordonner des coupes dans la réserve de Białowieża.
C'est parce que la population d'herbes ne sont pas en bon état de santé. Ça veut dire qu'il va y avoir une possibilité pour l'expansion de cet insecte. Donc ça élimine les arbres qui ne sont pas en bonne santé. Ça ne veut pas dire que toute la forêt était affectée. Quelque chose comme 4% des individus étant morts par cet événement. Et 4% est très normal dans une population naturelle.
Le gouvernement a fait couper environ 5000 hectares de forêt sur les 140 000 que compte la réserve de biosphère. Des coupes qui seront visibles durant au moins un siècle selon Juanjo et qui ont été jugées illégales par la Cour de justice de l'Union européenne.
Alors qu'une bois ne peut jamais sortir de la forêt, la réserve de la biosphère. On peut couper en deux situations, qui est pour le bois de réchauffement de la ville, qui vient d'un endroit spécifique qui sont dédiés à ça, et dans le cas de sécurité proche des sentiers ou des routes. Mais le bois devra rester toujours dans le sol. Et ça qui était illégal, parce que le bois était transporté ailleurs de la réserve de la biosphère, il était vendu ailleurs.
Les coupes ont été arrêtées, mais l'UNESCO a mis en garde le gouvernement. S'il recommence, Białowieża pourrait perdre son inscription au patrimoine mondial. Or, c'est grâce à cela que les visiteurs affluent dans la région, une activité autrement plus profitable que l'économie forestière.
Maintenant, le tourisme apporte l'immense majorité de l'économie de local. On a 65 personnes qui travaillent dans le service forestier, autour de 65. Mais on a 900 entreprises qui sont directement relationnées avec le tourisme. Une centaine de guides, tous les restaurants, les supermarchés, les hôtels, c'est une question idéologique.
De nouveaux projets de coupe ont été présentés par le gouvernement cette année. 150 000 mètres cubes d'arbres, soit un peu plus de 400 hectares d'ici 2021. Cette fois, ils mettent en avant la sécurité, notamment face aux incendies. Et ces coupes seraient en dehors de la zone protégée par l'UNESCO. Difficile de sortir de la forêt primaire, encore épargnée par les coupes et par l'homme, sans penser à la crise climatique qu'endure la planète.
Ma message, c'est d'apprendre quelles sont les règles de la nature. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui du point de vue des relations de notre espèce avec la planète sont parce qu'on ne respecte pas ces règles. On a transformé tellement la planète Terre que des endroits comme ça, qui sont vraiment naturels, sont considérés comme magiques. Non, la question c'est que n'a pas magie, c'est le fonctionnement naturel et normal dans le contexte planétaire. C'est ça, c'est la vie.
Juanjo Ferro relaie ce message aux touristes qui l'emmènent dans la forêt de Białowieża, tout comme les militants écologistes sur place en permanence et prêts à s'opposer à de futures nouvelles coupes. Dans la forêt primaire de Białowieża, Fanny Bouco, Europe 1.
Voilà une balade qui nous donne une idée de la richesse d'un tel espace naturel et puis de la vigilance indispensable pour le préserver aussi. On avait écouté ce reportage avec Francis Allais, ce grand botaniste qui était notre invité ce jour-là, et il nous avait expliqué pourquoi il est essentiel qu'il y ait des forêts comme ça, complètement préservées à l'échelle du temps long, voire très très long. Francis Allais.
les forêts dont nous avons l'habitude, par exemple dans le bassin parisien, je ne veux pas en dire du mal, elles sont belles, mais ce n'est pas des forêts primaires. Ce sont des forêts dégradées, secondaires, appauvries. Alors les forêts primaires, elles ont un double mérite. C'est, comme je le disais, le sommet de la biodiversité. C'est là qu'il y a le plus de plantes et d'animaux et de bactéries et de champignons et tout ce que vous voulez de vivant. Ouais. Et en même temps, c'est le sommet de l'esthétique. Cette forêt de Bielowieża, j'avais jamais vu en Europe une forêt aussi belle.
Vous avez écrit cette année, Francis Allais, à Emmanuel Macron et au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, notamment pour plaider pour la création d'une nouvelle forêt primaire en Europe. C'est un projet que vous portez. Ce serait où et comment il faudrait s'y prendre ?
Alors, c'est un projet qui débute. On a débuté ça en juin dernier, donc on n'en est pas encore très loin. Mais ça intéresse énormément de monde. Ça ne devrait pas coûter cher parce que, c'est paradoxal, mais il s'agirait justement de ne plus rien faire et de laisser uniquement la nature travailler.
Ça serait où ?
On en est là, le choix du terrain. On aimerait que ça soit transfrontalier sur plusieurs pays d'Europe. Je verrais bien quelque chose qui partirait des Ardennes belges, vous voyez, et qui irait en Allemagne, en France du côté des Vosges et du Jura. Et puis en Suisse, et peut-être, je sais pas, peut-être l'Italie du Nord, voilà, quelque chose qui soit vraiment européen. Si ce projet marche, c'est qu'il sera devenu européen.
Vous croyez qu'on est capable de faire ça, de sanctuariser des dizaines de milliers d'hectares qui ne seraient donc plus exploités et potentiellement pour toujours ?
Ben, je vais vous dire, si on n'est pas capable de ça, c'est qu'on est nul. Vous connaissez sûrement la forêt de Pins des Landes dans le sud-ouest. Eh bien, c'est 1 million d'hectares. C'est-à-dire que c'est énorme, c'est gigantesque. Alors, nous sommes capables de planter 1 million d'hectares, mais nous ne serions pas capables de conserver 600 000 hectares. Moi, je trouve que la qualité de l'être humain, elle est en jeu, là.
Il faudrait combien de siècles pour faire revivre une forêt tempérée primaire, comme ça ?
Alors, difficile de vous répondre, parce que ça dépend de l'âge de la forêt initiale. Ben, supposez qu'elle ait 200 ans, ça serait déjà très bien. Il nous faudra 8 siècles.
Ok.
Il faut 1000 ans pour faire une... Ça vous fait rire, bah bien sûr. Mais vous savez que ce n'est pas nous qui sommes responsables de la durée qu'il faut pour faire une forêt primaire en Europe. Dans les tropiques, ça va nettement plus vite, bien sûr, parce que ça fonctionne toute l'année.
1000 ans sans rien toucher pour laisser émerger une nouvelle forêt primaire. Ce magnifique projet porté par Francis Allais pourrait s'inscrire dans le grand plan vert de l'Union européenne. Depuis cette interview, Francis Allais a mis en ligne un site dédié pour expliquer et rallier des soutiens. En voilà l'adresse www.forêtprimaire-francisallais.org. Voilà. Dans un instant, je vous emmène visiter une autre forêt et rencontrer ses défenseurs en bordure de l'immense ville de Bombay, en Inde.
Europe 1, 13h-14h, les carnets du monde.
Suite des carnets d'été qui nous replongent au cœur des reportages qui ont marqué l'année. Et c'est aux forêts qu'on s'intéresse. Après la dernière forêt primaire d'Europe en Pologne, nous voilà à l'orée d'un autre grand poumon vert. Et cette fois, c'est à Bombay.
La capitale financière indienne a bien besoin de respirer avec ses quasi 30 millions d'habitants et l'urbanisation galopante. Et là, en lisière de la ville, se trouve justement la forêt d'Arrée. Elle s'étend sur 1300 hectares, représente une belle réserve de biodiversité et héberge toujours le peuple tribal Adivasi, des indigènes qui vénèrent ces arbres centenaires. Mais sous la pression foncière, la jungle d'Arrée est de plus en plus grignotée de toutes parts. La municipalité a abattu des milliers d'arbres pour construire une troisième ligne de métro, au point que des citoyens indiens se sont mobilisés pour défendre Arrée et ont réussi à faire modifier le tracé du métro. Voici le reportage que nous avait proposé alors Combastin.
À l'entrée des 1300 hectares de la forêt d'Arrée, située au milieu de Bombay, les manifestants font face aux policiers. Depuis des mois, ils s'y donnent rendez-vous pour protester contre la déforestation.
C'est ici que la Mumbai Metro Corporation veut construire le terminus d'une ligne de métro. C'est contre cela que nous manifestons. Nous nous rassemblons ici tous les dimanches, nous formons des chaînes humaines, nous protestons contre ce dépôt de train.
Pas loin de la manifestation, dans la forêt, un village est menacé par l'urbanisation de Bombay. J'y rencontre Prakash Bor, un porte-parole des peuples tribaux qui veulent sauver la jungle
d'Aret.
Je vis ici depuis toujours. Nous, les Adivasis, nous sommes les premiers habitants de ces lieux. Ça fait tellement de générations que nous habitons la forêt que nous en avons perdu la trace.
Là, on voit des buildings qui sont vraiment à quelques dizaines de mètres de votre maison. Est-ce que vous avez peur de devoir déménager prochainement ?
On nous dit souvent que nous serions plus en sécurité dans des grands immeubles modernes comme ceux-ci. Mais ce sont justement d'eux qu'il faut nous protéger. Pour nous, Dieu et la nature ne font qu'un. Nous vénérons les arbres et les différents projets qui ont peu à peu été introduits dans la forêt la détruisent.
Dans leur combat, les peuples tribaux ne sont pas seuls. De nombreux habitants de Bombay s'opposent aussi à la déforestation. Comme Nirali Vaidya, une activiste et blogueuse environnementale qui a lancé une pétition rassemblant 700 000 signatures, exigeant un autre tracé de la ligne de métro.
Au fil du temps, on construit sur les rivières. Les forêts sont sacrifiées pour des projets de développement. Les collines sont occupées par des bidonvilles et des promoteurs immobiliers. Ma pétition a reçu des soutiens non seulement depuis Bombay, mais depuis toute l'Inde, depuis toute la planète. Personne n'est contre le métro. Bien sûr, les transports publics permettent de limiter les émissions de CO2. Mais comment allons-nous produire l'oxygène que la forêt fournit à la ville ?
Au petit matin, le biologiste spécialiste de la vie sauvage, Anand Pendarkar, nous a donné rendez-vous à l'orée de la forêt pour découvrir l'écosystème qu'elle abrite.
Imaginez que je vous bande les yeux, puis que je vous lâche ici. Est-ce que vous auriez l'idée de construire une zone résidentielle ou des bureaux administratifs ? C'est recouvert de plantes grimpantes, d'herbes et d'arbres. Ces 20 dernières années, nous avons listé 1147 plantes et animaux différents dans cette forêt. Ici, vous pouvez voir les éraflures d'un léopard. C'est comme ça qu'il marque son territoire. À la minute où nous sommes entrés dans la forêt, la température est descendue de 4 à 5 degrés. La verdure et l'humidité régulent la température de la ville. C'est aussi un puits de carbone. Les collines au loin amènent l'eau jusqu'ici durant la saison des pluies et c'est ce qui évite à la ville d'être inondée. Ça tombe donc sous le sens qu'il ne faut pas bétonner cette zone éponge.
En dehors de la forêt, la bataille pour Aret se joue aussi sur le terrain juridique. Fondatrice du groupe Save Aret, la militante Amrita Bhattacharji a porté plainte avec d'autres auprès de la Cour suprême indienne qui vient de décréter un moratoire sur la déforestation jusqu'en décembre.
À chaque fois qu'un tel projet d'infrastructure apparaît quelque part, on voit de grands projets immobiliers se développer. Et on dirait bien que c'est le plan ici aussi. À la base, ils répétaient que c'était juste un dépôt de train, mais on a appris qu'il y aurait finalement une station de métro dans la forêt. Or, il n'y a pas tellement de gens qui vivent ici, il n'y a donc aucun besoin d'une station de métro.
À moins de vouloir justement développer la zone.
Exactement, c'est clair qu'il doit y avoir des intentions de développement futur.
Inquiète de pouvoir encore habiter Bombay dans 20 ans, la nouvelle génération est en première ligne pour défendre la forêt. C'est le cas de Yutika qui, à 18 ans, n'a pas hésité à s'opposer au bulldozer et terminer au poste de police.
J'ai été placée en détention. Je ne m'étais jamais sentie aussi démunie de toute ma vie. La police ne m'a pas très bien traitée. Est-ce que c'est mal de demander de respirer un air sain ? Est-ce ma faute si moi et ma petite sœur qui n'a même pas encore vu ce monde allons attraper des maladies respiratoires ?
À 20 ans, Ishpriya Kaur a lancé un groupe étudiant baptisé Combat pour un avenir juste.
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a publié un rapport et nous a mis en garde. Mumbai est une ville côtière très proche du niveau de la mer. Il est prévu que la ville soit inondée et complètement détruite d'ici 2050. C'est donc positif qu'il y ait eu ce mouvement autour d'Aret, car ça a permis à la jeunesse de s'instruire sur tout cela.
Une jeunesse mieux informée et une bataille remportée cette semaine, avec la fin des travaux du métro et la recherche d'un nouveau tracé. Les militants ont célébré cette décision, mais tous restent vigilants. Les projets de zoo, de réhabilitation de villages et de gratte-ciel sont toujours d'actualité dans la forêt de Bombay. Le combat entre la jungle urbaine et la jungle d'Aret ne fait sans doute que commencer. Entre Bombay et la forêt d'Aret, Combastin, Europe 1.
Voilà, les poursuites judiciaires contre les citoyens arrêtés à ce moment-là, fin 2019, ont également été levées. Mais ces derniers mois, de nouvelles autorisations d'exploitation de portions de forêt ont été délivrées. Après avoir écouté ce reportage avec notre invité, le botaniste Francis Allais, je lui avais demandé quel était le sentiment qui dominait chez lui, l'inquiétude de voir les forêts constamment rognées ou le bonheur de voir des citoyens se mobiliser pour les défendre, comme à Bombay.
D'abord, ce n'est pas une situation facile. Une énorme ville en pleine expansion, ouais, avec une forêt juste à côté, on est vraiment dans la situation la plus délicate. Maintenant, il y a une vraie raison d'optimisme, et je constate que c'est le cas à Bombay, c'est que les citoyens, maintenant, ils sont tellement attachés à leurs arbres qu'ils sont prêts à se battre pour le maintien de la forêt. Et ça, c'est relativement nouveau. On n'aurait pas dit ça il y a 20 ans.
Vous le constatez, hein, cet intérêt nouveau et très fort pour la forêt.
Complètement, même ici, là où j'habite.
Ouais, et quand vous faites des conférences, ça fait sale comble. Il y a de plus en plus de livres, ouais, qui sortent sur les forêts, sur, ouais, les plantes, ouais, ouais, et qui ont des succès, qui sont des vrais succès d'édition.
On est dans une période extrêmement favorable pour assister au progrès des connaissances sur les plantes.
La tâche est immense, hein, quand on voit par ailleurs ce qui se passe en Amazonie, par exemple, ces derniers mois.
Oui, ça c'est répugnant. Je trouve ça répugnant. Ce gouvernement brésilien, il se couvre de honte. Pas seulement vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des Brésiliens qui habitent ces forêts. Les ethnies amérindiennes sont terriblement visées. Et quand je vois que les régions où j'ai travaillé sont maintenant complètement calcinées, ça me dégoûte.
Voilà. Ouais, vous avez beaucoup travaillé grâce à ce radeau des cimes que vous avez imaginé, hein, comme une plateforme très légère posée au-dessus des arbres. Sur les canopées et sur lesquelles vous avez mené beaucoup de vos études ces dernières décennies.
C'est vrai, oui, oui.
Pourquoi, Francis Allais, malgré l'urgence qu'on connaît et qu'on voit maintenant, personne ne peut ignorer, pourquoi ces coupes sombres et ces démarches-là ne tombent pas sous le coup de la loi ?
Il faudrait, mais on en est très loin au Brésil. C'est réprouvé par la population, mais ça n'est pas encore juridiquement considéré comme un délit.
Il faudrait qu'il y ait un délit d'écocide, c'est ça ?
Écocide, c'est ça, exactement. Ouais. Écocide et aussi génocide, parce que les populations forestières sont là et si on leur retire leur forêt, elles disparaissent. Elles ne peuvent pas survivre autrement.
Et les craintes de ce point de vue-là se concentrent sur le Brésil. Le gouvernement de Jair Bolsonaro fait tout depuis son arrivée au pouvoir pour affaiblir la protection des peuples indigènes et de leur territoire en forêt amazonienne. Une vulnérabilité accentuée par l'épidémie de Covid-19, les Indiens vivant au cœur de la forêt n'ayant aucune immunité pour y faire face. Vous vous souvenez peut-être, hein, le grand photographe Sebastião Salgado nous avait alerté là-dessus dans les carnets au printemps, pendant le confinement. Et c'est vers l'Autistan qu'on se dirige maintenant, avec Joseph Chovanec. Parfois, on parle d'argent.
Europe 1, les carnets du monde.
C'est la dernière étape des carnets d'été et un petit détour par Autistan avec Joseph Chovanec.
Joseph, c'est celui dans l'équipe qui passe son temps à voyager. Il a la bougeotte et adore décrypter les autres cultures, comparer et nous inciter souvent à la réflexion sur nous-mêmes. Ce jour-là, c'était en janvier, il séjournait dans le sultanat d'Oman et il voulait nous parler gros sous. L'argent, en avoir ou pas, en parler ou pas.
Dans certains pays, on parle tout le temps de l'argent, pas dans d'autres pays. Ouais. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas toujours les plus pauvres qui en parlent le plus. Quand on a eu affaire à des clients issus des pays du Golfe, eh bien, on l'a remarqué. Quand le vendeur annonce à son client issu des pays du Golfe que le produit demandé coûte tant et tant, la réponse est presque toujours la même. Ne me dis pas les prix, donne-moi le produit. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que le client roule sur l'or. Simplement, les chiffres ne font pas partie de ses préoccupations.
Ça sent le vécu, ce que vous nous racontez là.
Oui, et dans les pays du Golfe, l'argent n'est pas ce qui vient en premier, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Quand vous rencontrez par exemple un passant dans la rue, saurez-vous dire s'il est riche ou pauvre ? En Europe, généralement oui, et c'est même facile. Dans des pays tels que le Liban ou en Inde, c'est encore plus clair, la tenue, l'allure, etc. Par contre, ici en Oman, où je séjourne, c'est quasiment impossible. Les riches et les pauvres sont vêtus à peu près de la même façon, ils ont la même apparence. Alors vous pouvez voir des photos, les Omanais ont par exemple un khinjal, le couteau traditionnel en or, mais ce n'est pas un signe de richesse, c'est une photo d'un événement formel, festif ou familial.
Mais alors ce serait quoi, l'habitat, la maison qui serait un signe extérieur de richesse ?
En Europe, oui, quand vous regardez l'habitation de quelqu'un, vous devinez sa richesse, mais en Oman, c'est quasiment impossible. Chaque Omanais est propriétaire terrien, c'est la loi, et possède une maison. Une très grande maison, ici en Oman, est davantage synonyme de grande famille que de grande richesse. Et l'autre jour, je me promenais avec un ami Omanais, et on bavardait, et on est tombé sur un faubourg où je n'avais encore jamais mis les pieds. Et c'est là qu'habitent les fameux Yaakoubi, hein, la tribu qui est réputée riche hein, dans le coin. Sauf que quand on regardait les maisons, c'était impossible à deviner. Les maisons des Yaakoubi n'étaient même pas décorées.
Mais alors Joseph, être riche ou pas, à quoi ça tient finalement ?
Je crois que c'est la forme de la propriété qui est différente. En Occident, la propriété est individuelle, mais ailleurs, elle est souvent collective. Je l'ai observé au Maroc, mais aussi ici en Oman. On ne dira jamais qu'un tel a de l'argent, sauf peut-être quand il est question d'un étranger, par exemple Bill Gates. On dira plutôt que telle tribu a un grand patrimoine, mais on ne sait pas toujours exactement qui possède quoi. Et d'ailleurs, personne n'a su répondre à ma question mille fois répétée sur la nature et l'origine du fameux patrimoine des Yaakoubi.
Pourquoi ? Parce que c'est tabou ?
Je crois que ça n'intéresse pas beaucoup les gens, à vrai dire. Avoir une propriété semi-commune, ça a des implications concrètes. L'autre jour, je discutais avec un jeune Omanais, encore étudiant, et donc a priori sans grand salaire. Et je lui ai demandé comment il comptait trouver l'argent pour construire sa maison. Il a mis du temps avant de me répondre. La question lui paraissait étrange. Puis il m'a dit en deux mots, banque familiale. Alors moi, en bête occidentale, j'avais cru comprendre que sa famille était richissime et possédée. Aider une banque. Mais en fait, non, c'est plus simple que ça. En Oman, les dépenses importantes se font par une sorte de financement participatif. Tout le monde dans la grande famille contribue. Alors, est-ce que les Omanais sont des gens détachés des contingences matérielles ? Non. Alors, il y a la maison, la voiture, mais quelque chose est encore plus sacré pour eux. Les objets qui ont appartenu à leurs parents. Par exemple, la maison de leur père, elle est intouchable. Ils ne la revendront jamais. Et ils sont prêts à la maintenir vide. Encore les bijoux, les vêtements de leur mère. D'une certaine façon, voyager, c'est en apprendre beaucoup sur la propriété.
Leçon de sagesse, signé Joseph Chovanec, notre chroniqueur, philosophe, voyageur et autiste, qui attaquera avec nous la 15e saison des Carnets du Monde dès le week-end prochain. On est tous ravis de cette perspective. Poursuivre ce chemin avec vous, écouter le monde changer encore et toujours. Il y a de quoi faire et les reporters de la rédaction d'Europe 1, ses correspondants seront nos guides pour cette nouvelle saison. Ça a été un plaisir de concocter ces carnets d'été avec Marc Fréjean et Florence Gimalac. On vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 13h pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.